on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter la foule.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé, ok, moi.
Allez, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Il est 19h03 dans votre studio Radio Cani, la plus rebelle de radio. Ça fait quand même longtemps, c'est...
Et c'est quoi comme émission?
C'est une émission...
C'est le Cani Info.
Cani Info du lundi, comme vous le savez, comme d'hab. Voilà, mais quand même, je tenais à dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas tenu cette émission. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir, notamment pour parler de l'actualité internationale, nationale, mais aussi locale et, comme vous savez, nationale, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que c'est parti pour les titres de cette émission de ce soir.
Avant les titres, quand même, on va dédicacer
à Patrick Balkany cette émission, à qui on fait des petits bisous.
Patoche,
Patoche, voilà, qui doit nous écouter depuis sa cellule VIP de prison, puisque bon, voilà, c'est suffisamment rare pour le souligner. Par contre, évidemment, il a une cellule privée, il est isolé des autres détenus, donc il a quand même
des conditions de détention bien meilleures que les autres détenus,
tous ceux qui sont issus des quartiers populaires, mais bon, ça
on
fait quand même plaisir.
Par ailleurs, qu'il ne va pas y rester longtemps, donc on voulait vraiment lui dédicacer cette émission en particulier.
Voilà, Patoche, si tu nous entends, c'est pour toi. Alors, à l'international, aujourd'hui, on commence par détailler un peu cette attaque de drone qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Ensuite, on ira voir du côté de Hong Kong, hein, et on parlera, avant d'en faire un dossier la semaine prochaine, de la dernière manifestation qui a eu lieu à Hong Kong. On enchaînera donc à l'international avec le numéro 2, une drôle d'histoire, le numéro 2 de l'ambassade française au Salvador, mis en examen pour terrorisme.
Et au national, on parlera de la grève à la RATP vendredi, puis d'un arrêté anti-SDF qui a été pris à Toulouse. Et enfin, d'une agression policière à Sevran et d'un policier suspendu, puis désuspendu.
Et oui. Au local, on enchaînera avec les fêtes consulaires de la ville de Lyon. Surprise, hein, pour moi aussi. un article du Progrès sur Lyon 2, a priori scandaleux. Et on terminera donc sur des militants écolos d'Extinction Rébellion qui bloquent un pont donc à Lyon. Et on finira
avec un dossier sur l'Amphizède qui, breaking news, a été expulsé la semaine dernière avec 2 invités habitants du bâtiment réquisitionné.
Et donc on passe à l'international d'abord avec cette attaque de drone en Arabie Saoudite.
Oui, alors il faut savoir, le samedi dernier, l'Arabie Saoudite a été victime d'une attaque de drone sur des installations pétrolières saoudiennes dans l'ouest du pays. Une attaque revendiquée par les rébelles...
Alors, on t'entend plus là, vas-y.
Vous m'entendez pas?
C'est bon, si, si.
Ah, d'accord. Je disais que c'est une attaque revendiquée par les rebelles yéménites. Qui sont-ils alors? Il faut tout simplement dire que cette histoire date de la guerre de Sada. Une guerre, si vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas, la guerre de Sada est éclatée en 2004 au nord-ouest du Yémen. Bilan 10 000 morts. Alors il faut quand même revenir pour dire que pourquoi ces rebelles se plaignaient. Ils se plaignaient tout simplement parce qu'ils disaient avoir été marginalisés par le gouvernement sur le plan politique, économique et religieux. Et depuis, ils militent pour le retour de l'imamat, un régime monarchique et théocratique dans lequel le pouvoir spirituel et politique est dicté, si vous voulez, par l'imamat. Suite. Donc peut-être on peut se dire c'est la raison pour laquelle on peut tirer de lien entre les rebelles, disons yéménites et l'Iran, mais aussi avoir un ennemi commun qui est l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Même si dans cette attaque, parce que je reviens pour parler de cette attaque du géant Aramco, le groupe rebelle yéménite revendique l'attentat. Les États-Unis, de leur côté, pointent le doigt le régime iranien. Selon le secrétaire d'État américain, Téhéran est derrière plusieurs fois de l'attaque, si vous voulez, plusieurs attaques en Arabie Saoudite. La réaction du terrain ne se fait pas attendre par la voix du porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Abbas Moussavi. Il fait savoir que les déclarations du secrétaire d'État américain sont insensées, mais aussi incompréhensibles. L'Irak, de son côté, refuse et réfute d'être associé de l'attaque qui a visé le poumon de l'économie mondiale, c'est ce qu'ils disent. Si les réactions se multiplient, c'est parce que ces installations produisent quand même, il faut dire, l'enjeu est détail, 5,7 millions de barils par jour, soit environ 5% de la production mondiale brute quotidienne. Les rebelles aussi revendiquent et affirment Asie en représailles aux frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite pour soutenir les forces pro-gouvernementales. À rappeler que ce n'est pas la première fois que le groupe rebelle Houthi revendique des attaques de drones sur le territoire saoudien. Il faut rappeler quand même cette date quand même reste marquée, le 14 mai, ils ont revendiqué aussi une attaque de drones visant deux stations de pompage reliant de l'ouest à l'est du royaume saoudien. Il faut aussi dire que ce n'est pas la seule date qui est, disons, le 14 mai, mais aussi le 17 août, les rebelles avaient aussi lancé l'une des plus grosses attaques contre l'Arabie Saoudite visant le champ de Saïba avec une dizaine de drones. Donc il faut dire que tout simplement que cette guerre qui commence ou cette attaque aussi, ultime attaque entre les rebelles yéménites et l'Arabie Saoudite, quand même, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis le mai 2019. Mais la question qu'on peut se demander jusqu'à quand, parce que la dernière fois qu'il y a eu le G7 à Biarritz, quand même, on parlait l'enjeu majeur de cette rencontre, c'était aussi pour parler le problème entre l'Iran et les États-Unis. Donc on peut se demander si aujourd'hui l'Iran est accusé d'être derrière cette attaque, est-ce qu'on peut un peu continuer de parler pour parler entre les deux nations, surtout qu'on sait les ennemis aujourd'hui de l'Iran dans la région, c'est l'Arabie Saoudite soutenue par les États-Unis.
Et à l'international, toujours, on va du côté de Hong Kong.
Oui, ce sera juste quelques mots rapides puisqu'on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais on ne pouvait pas ne pas vous en parler après tout ce qui s'est passé cet été et en fait depuis 6 mois. Donc on va résumer assez brièvement ce qui se passe en ce moment à Hong Kong. Il s'agit d'un mouvement déclenché par un projet d'amendement à la loi sur l'extradition qui aurait eu pour conséquence de permettre à Pékin de réclamer toute personne considérée anti-gouvernement chinois pour qu'elle soit jugée en Chine par la justice chinoise. Cet amendement a été abandonné, mais depuis les revendications ont beaucoup évolué. Puisque les manifestants demandent maintenant la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif considérée comme étant aux ordres de Pékin, la libération de tous les détenus arrêtés en tant qu'émeutiers, la dissolution du Conseil législatif, la mise en place du suffrage universel et enfin la création d'une commission d'enquête sur les violences qui ont eu lieu à Yuanlong, où des manifestants se sont fait tabasser à coups de barres de fer et de battes de baseball par des individus portant des drapeaux chinois. Je reviens rapidement sur cet événement. La police avait mis 1 heure à arriver et n'a arrêté ni contrôlé aucune des personnes responsables de l'attaque. Et un député pro-Pékin s'est trouvé fortuitement sur les lieux pour applaudir et serrer la main des courageux assaillants. Plusieurs raisons de soupçonner que ces personnes ont en fait été envoyées par Pékin pour casser les manifestations. la manifestation d'hier, donc, qui est la dernière en date, était interdite, comme elles le sont maintenant systématiquement, il me semble, et a évidemment subi la répression policière. Mais les manifestants, comme ils le font aussi depuis quelques manifestations maintenant, ont commis des actes qui sont qualifiés de violents. On en reparlera certainement un peu plus la semaine prochaine, mais les manifestations actuelles à Hong Kong contrastent énormément avec les premières de mars et avril, qui étaient facilement et sans conteste qualifiées de pacifiques. Mais ayant subi semaine après semaine les coups et la répression policière, les pratiques des manifestants, qui étaient donc essentiellement défensives dans les premiers temps, ont évolué. Ils avaient déjà franchi un pas le 1er juillet en prenant possession de leur parlement durant la nuit. Et cet acte avait lui-même été qualifié de bouleversant et choquant par Carrie Lam, donc toujours la chef de l'exécutif. Bon, c'est un peu surprenant que la prise de possession par un peuple de son parlement soit quelque chose de choquant. Mais c'est tout de même à partir de là que s'est effrité petit à petit le tabou de la violence, je dis entre guillemets la violence, parmi les manifestants hongkongais. Hier, il y a eu des jets de pierres et de cocktails Molotov sur les forces de l'ordre pour essayer de les empêcher de mettre fin à la manifestation. Et la police, quant à elle, a utilisé, en plus des classiques gaz lacrymogène et tirs de flashball, des canons à eau colorés en bleu qui marquent les manifestants pour faciliter leur arrestation plus tard dans la journée.
Made in France.
Malgré le rythme des manifestations, juste pour préciser, en août, il y en a eu 2 à 3 par semaine. Et le fait qu'elles aient lieu depuis plus de 6 mois maintenant, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers dans la rue hier. Et en attendant de vous en parler un peu plus la semaine prochaine, des manifestations de Hong Kong, de la Chine et de ce qu'il y a d'intéressant qui en émerge, on leur souhaite bien du courage et de tenir le coup.
On enchaîne ensuite donc avec une histoire étrange sur un numéro 2 de l'ambassade française au Salvador.
Oui, alors en fait, c'est une affaire qui date du mois de juin, mais qui, surprise, n'a été révélée par le Parisien que le 13 septembre. Donc effectivement, le numéro 2 de l'ambassade du Salvador, alors un certain Marc-Antoine G, a été interpellé à sa descente d'avion le 2 juin parce qu'il appartenait au groupuscule FAF Action des Forces Opérationnelles, l'AFO. Donc c'est un groupuscule dont on avait déjà entendu pas mal parler un an auparavant, en juin 2018, puisque la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avait interpellé 10 personnes qui projetaient des attentats contre les musulmans. Donc la DGSI avait découvert lors de ses interpellations et de ses perquisitions un labo de fabrication d'explosifs artisanaux, mais aussi des armes de poing et surtout tout un tas de documents portant sur des projets d'action du groupe, du petit groupuscule de Nazillon. Alors parmi ces projets, on trouve l'empoisonnement de nourriture halal, l'assassinat d'imams radicaux ou encore de lancer des explosifs dans des voitures conduites par des Nord-Africains. Donc dans ce charmant petit groupe se trouvait ce fameux Marc-Antoine G. Il était même chef de l'AFO Île-de-France sous le pseudonyme de Cortès. Il était aussi consul au Gabon avant d'être le numéro 2 de l'ambassade du Salvador. Et il est maintenant le 14e suspect interpellé et mis en examen donc dans ce dossier pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors, n'écoutant que son courage, ce haut fonctionnaire français a bien jacté pendant son audition, probablement pour se dédouaner de sa propre implication dans l'AFO. Sauf que, bon, chez lui, les flics ont quand même trouvé pas mal d'éléments à charge. Il a donc expliqué pendant sa garde à vue, à Levallois-Perret, je cite, « Le projet initial de l'AFO consistait, lors d'une attaque terroriste de type 13 novembre, à être en mesure, dans les heures qui suivaient, de frapper à travers toute la France des cibles reconnues comme étant radicales. » Il a aussi expliqué qu'il y avait des entraînements militaires qui comportaient du tir, de la course, de la marche et de la fabrication d'explosifs. Il aurait même, selon des documents qui ont été trouvés chez lui, projeté de ramener des armes du Salvador grâce à sa valise diplomatique. Alors voilà, on se demande un peu pourquoi cette info elle a été complètement passée sous silence pendant plus de 3 mois. On a connu l'État et les médias plus véloces à condamner des innocents et à les donner en pâture à la presse. Mais bon, qui sait, peut-être que Marc-Antoine rejoindra bientôt Patrick à la santé. C'est tout ce qu'on lui souhaite.
Tout ce qu'on lui souhaite. Et donc, on enchaîne, et je me fais mon propre enchaînement, avec la grève historique qui a lieu à la RATP vendredi. Et on va détailler un peu ce que c'est que cette réforme des retraites. Alors, ce vendredi à la RATP, vous l'avez vu forcément, la grève a été massive. Et pas qu'un peu, hein, 90% des roulants ont été grévistes, et entre 60 et 98% des encadrants ont été grévistes selon les secteurs. 10 lignes de métro étaient complètement à l'arrêt, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Et ça a provoqué plusieurs centaines de kilomètres de bouchons à Paris et autour de Paris. Et quand les travailleurs de la RATP se mettent en grève, bah, ça provoque un beau bordel. Mais alors pourquoi cette grève a-t-elle été aussi massive, notamment à la RATP ? Eh bien parce que le nouveau projet de réforme des retraites attaque de plein fouet l'ensemble des régimes spéciaux et les travailleurs de la RATP en bénéficient. Alors c'est quoi exactement un régime spécial ? C'est un régime qui bénéficie de compensations pour le départ en retraite en fonction de la pénibilité du travail. Contrairement à ce que commencent déjà à dégueuler les médias mainstream, ce ne sont pas des privilèges, ce sont des acquis sociaux arrachés au patronat grâce à la combativité ouvrière. Bien souvent, ils permettent de partir en retraite plus tôt que dans d'autres secteurs. Le taux de cotisation peut être plus faible au sein du salaire et les pensions sont souvent un peu plus élevées. Or, le gouvernement veut fusionner l'intégralité des régimes de retraite. Il y a 42 régimes de retraite différents en un seul et unique régime fonctionnant de la même manière pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, plusieurs professions libérales ayant leur propre système de financement de retraite se sont mises en grève, comme les pilotes de ligne, les hôtesses, les avocats, les médecins, les kinés ou encore les infirmières. Bon, après, on n'a aucun doute sur le fait que les grévistes d'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les médecins ou les pilotes de ligne par exemple, ne sont pas des alliés objectifs dans la lutte contre cette réforme et se mobilisent de manière uniquement corporative. Mais il est évident que tous les secteurs bénéficiant de régimes spéciaux vont être impactés. En conséquence, il y aura augmentation des cotisations retraite, la baisse des pensions de retraite, l'augmentation de la durée du temps de travail et le décalage de l'âge légal du départ en retraite. C'est de toute façon bien là l'objectif de cette nouvelle réforme, comme toutes les réformes des retraites depuis les années 90. Les deux gros autres points, les deux grosses autres attaques de ce projet de réforme sont la fin du système de retraite par répartition, qui deviendrait un système à points. En gros, d'ici à 2025, chaque mois travaillé permettra d'engranger des points et c'est le cumul de ce nombre de points qui permettra de calculer le taux mensuel du retraité. Or, aujourd'hui dans le privé, ce sont les 25 meilleures années qui sont prises en compte et pour les fonctionnaires, le calcul se fait sur les 6 derniers mois, c'est-à-dire là où le salaire est le plus élevé. Pour tout le monde, donc, ça va correspondre à une baisse des pensions. Le plus rude, ce sera pour celles et ceux qui travaillent en CDD, qui ont des périodes de chômage. Dernier point de cette réforme des retraites, c'est rehausser l'âge de départ à 64 ans pour avoir une retraite à taux plein. Mais comme ils sont hyper sympas, ils autoriseront le départ à partir de 62 ans, comme aujourd'hui, mais évidemment avec une retraite décotée. C'est donc là un beau foutage de gueule. Pour revenir à la RATP, après avoir été massivement en grève ce vendredi et après avoir envahi le siège de la direction, ce qui prouvait une certaine détermination, dans certains dépôts, ils réfléchissent déjà à l'organisation d'une grève reconductible. La date du 30 novembre est plus qu'envisagée pour démarrer cette grève reconductible. Donc c'était, on peut prendre ce vendredi comme un entraînement. Plusieurs syndicats et surtout une grosse partie de la base y sont complètement favorables. Espérons que l'exemple donné par la RATP ce vendredi et dans les mois qui vont venir va donner des envies à d'autres secteurs et que dans les mois qui viennent, la grève va se répandre comme une traînée de poudre, public, privé, régimes spéciaux ou pas, et qu'on fasse encore mieux qu'en 2010.
Et qu'on gagne.
Et qu'on abatte le système capitaliste.
Et bien tout de suite, on va parler d'un arrêté anti-SDF à Toulouse.
Oui, ce sera une petite brève, mais c'est juste pour signaler cet arrêté officiellement appelé anti-bivouac, pris par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, je ne sais pas comment ça se prononce. Jean-Luc. Cet arrêté...
Jean-Luc, Patrick, Marc-Antoine, tous à la santé.
Cet arrêté vise en fait des tentes installées récemment dans le centre-ville et occupées par des exilés. Il leur reproche d'être placés dans des endroits trop visibles par des associations telles que Droit au logement, qui instrumentaliseraient les personnes à la rue pour, je cite, « affoler les Toulousains ». Alors, je ne crois pas que donner des tentes à des gens qui sont dehors, c'est les instrumentaliser, ni qu'on puisse reprocher aux habitants des tentes de ne pas s'invisibiliser en se mettant à l'écart. Et il faudrait bien dire à Jean-Luc que les gens à la rue, avec ou sans tente, qu'ils les voient ou qu'ils ne les voient pas, ils y sont quand même à la rue. C'est le cas à Toulouse et dans bien d'autres villes de France, dont Lyon ne fait pas exception, et on en reparlera sûrement tout à l'heure.
Et on continue avec une agression policière à Sevran et des histoires de pendus, pas pendus, j'ai pas compris.
Alors, c'est donc effectivement un nouveau cas de violence policière qui a eu lieu mercredi 11 septembre, ce mercredi de la semaine dernière, entre 18h30 et 19h. Alors, pour rigoler de sa propre blague alors qu'elle est aussi nulle, par contre, c'est illégal, hein, je dois le dire, mais bon. Bref, ce mercredi 11 septembre, entre 18h30 et 19h, Lamina Bah, donc un médiateur noir de 34 ans, employé par la mairie de Sevran, se fait agresser par des policiers. Une vidéo montre clairement un policier, visiblement bien entraîné à la boxe, qui tente d'abord de le faire tomber en l'attaquant au niveau des jambes, puis qui lui assène plusieurs coups de poing au visage. Et avant que sa collègue ne déclenche un coup de taser et que le troisième ne le menotte au sol, alors que l'homme n'avait commis aucun délit et qu'il discutait avec le policier boxeur au départ. Fait rare, le préfet, dès le lendemain, Didier Lallemand a demandé une saisine de l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police Nationale, dont on connaît l'inefficacité, ainsi que, et là c'est plus rare, la suspension du policier concernant cette affaire, qui a fait d'ailleurs un énorme tollé sur les réseaux sociaux grâce à cette vidéo. Cette décision a provoqué une réaction immédiate des syndicats de policiers et des collègues du dit policier qui, probablement beaucoup trop habitués à une totale impunité dans les affaires de violence policière, d'autant plus en quartier populaire, ont appelé un rassemblement devant le commissariat d'Aulnay pour exiger la réintégration immédiate et donc soutenir la bavure et le tabassage en règle suivi d'un coup de taser sur une personne noire en quartier populaire. Figurez-vous que ça a marché, puisque ce vendredi, donc le surlendemain, le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, a refusé de signer la demande de suspension du préfet. Alors, il y a bien que chez les flics qu'un simple rassemblement devant un commissariat permet de faire aboutir une revendication. Un conseil, matez la vidéo, elle est très claire, c'est accablant. On rappelle également que le taser est une arme qui a une létalité certaine. Hein. Les tasers peuvent tuer. Il y a quelques jours à Tarascon, un homme est mort d'un arrêt cardiaque suite à un coup de taser. Voilà, à cab.
Écoutez, sur ces belles paroles, on va écouter une chanson d'un groupe qui s'appelle La Rumeur. Et le titre, c'est « Pas de justice, pas de paix ».
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des ports armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge on voit les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Mille barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre gonflés de noir et de propre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes. Ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène. Ni les gerbes fanées au pied des portraits assassinés. Ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches usés par la chaîne, par le mépris et le temps. Ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd. Tout se transforme et le brasier crépite. Et le brasier crépite. Et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au froid. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
Et donc, et c'était
la rumeur.
Pas de justice, pas de paix. Pas de paix. Ça allait bien contre les violences policières. Et donc, et on... vous êtes toujours sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
C'est le Canu Info du lundi. Et on passe au
local.
Et sur le local, donc on va commencer, pour, hélas, une fois n'est pas coutume, continuer à parler de répression. Et notamment, cette fois, on va évoquer un épisode, un triste épisode qui est arrivé donc, ce week-end à la fête consulaire. Donc la fête consulaire, donc, c'est un événement qui a lieu tous les ans, où en fait tous les consulats de Lyon et des environs viennent sur la place Bellecour faire présenter la beauté, la grandeur de leur pays. Et évidemment, en se basant que sur les plus gros archétypes qu'on peut trouver à chaque fois, et en niant toutes les réalités géopolitiques et locales et toutes les magouilles qui peut se passer dans ces différents endroits. Donc une fois de plus, on a eu le droit à des magnifiques défilés, tous plus stéréotypés les uns que les autres, allant de Bollywood à la musique, il y a des Indiens qui dansaient, enfin c'est des Chinois qui se baladaient avec un dragon, enfin c'est voilà, à chaque fois tout ce qu'on pouvait imaginer, toutes les pires représentations. Et notamment, par contre, c'était invité en fait un groupe en fait de militants qui étaient eux pour la défense en fait et la reconnaissance du Tibet. Et donc le Tibet, je vais pas revenir dessus pendant 20 ans, je pense que c'est quand même une chose qui est à peu près connue, qui est une région en fait annexée par la Chine et qui revendique sa liberté. Et depuis très, hélas, beaucoup trop longtemps. Et voilà. Et donc, il y a un certain nombre de militants, en fait, étaient là avec des drapeaux, notamment avec beaucoup de drapeaux assez visibles, et qui ont commencé à se manifester au moment où est passée donc, la délégation chinoise. Sauf que la délégation chinoise, avec leur magnifique petit dragon, était précédée, en fait, d'une sorte de milice, d'une vingtaine de personnes, habillées tous de la même façon, qui en fait, avaient pour but de protéger l'image de la Chine. Comme de fait, une fois qu'ils ont pu voir en fait les drapeaux tibétains, ils sont allés voir le service d'ordre en fait de l'organisation pour leur demander de faire disparaître en fait ces manifestants. Donc là, évidemment, la ville de Lyon a obtempéré dans la seconde et a envoyé son service d'ordre à demander aux manifestants tibétains pro-tibétains de ranger leurs drapeaux et d'aller se cacher dans l'angle de la place. Ce que, vu leur faible nombre, ils ont été contraints de faire. Mais ça n'a pas suffi en fait à ce service d'ordre en fait chinois qui a carrément en fait c'est après une fois qu'ils étaient coincés dans un angle s'est rapproché, a fait un mur en fait de leurs personnes, ils sont tous mis devant pour en fait cacher en fait au public tous les drapeaux et tous les manifestants, et ils ont commencé en fait pendant plus d'une heure à faire des coups de pression en fait sur les manifestants pour les forcer à partir et à ranger leurs drapeaux et continuer à invisibiliser leur lutte. Donc une belle après avec les différents événements qu'on peut avoir à Hong Kong en ce moment et dans différentes régions de Chine, magnifique vision de la répression et la soumission totale en fait des autorités locales à l'impérialisme chinois.
Et toujours au local,
on enchaîne sur la une du Progrès de ce matin. Alors le Progrès, on sait depuis très longtemps qu'il est habitué à tenir des positions parfois réac, mais généralement, en tout cas, toujours favorable à l'ordre social en place. Et chaque mouvement social est d'ailleurs l'occasion de voir la médiocrité d'un journalisme local qui est soumis aux impératifs de vente et à une logique marchande. Donc le sensationnalisme, c'est une seconde nature pour la rédaction du Progrès. Ainsi, quoi de mieux que d'inventer une polémique à partir d'un vulgaire tweet d'un pélo, là, qu'on ne sait même pas qui c'est, et en s'appuyant sur un sujet clivant et racoleur. Eh bien, ça donne la une de ce matin. Ainsi, ce matin, le Progrès a titré que l'université Lumière Lyon 2 était atteint par des dérives attribuées au nouveau militantisme venu des États-Unis notamment. Alors en gros, le journaliste, il s'indigne de la présence d'enseignements sur les thématiques de genre et de race dans le pôle Sciences Po de Lyon 2, feignant de découvrir que ceci existe alors que bon, ça fait quand même des années. Donc, et pour dire la profondeur du travail journalistique, tout se base donc sur un fameux tweet d'un militant Les Républicains, donc parti de droite très connu, ancien étudiant à Lyon 2 et surtout membre du Printemps Républicain. Et ça va être important pour la suite. Alors, celui-ci a d'ailleurs l'occasion, dans l'article, de dépaler un discours victimaire sur le poids de la gauche à Lyon 2, la stigmatisation des idées de droite et l'enseignement d'une pensée militante et une forme de doxa, en fait, bien pensante au sein de l'université. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ces polémiques, mais Bon, depuis quelques années, hein, parallèlement à la montée des idées à l'islamophobie et à la montée des idées d'extrême droite, hein, on a eu beaucoup de polémiques lancées par des hommes politiques sur ces sujets. Le printemps républicain a été un des principaux acteurs de ces polémiques, et des polémiques s'attaquaient souvent aux sciences sociales, hein, vues comme vectrices d'idées et de concepts qui menacent la République et la nation.
Particulièrement tous ces hommes blancs de plus de 50 ans.
Je vais y venir. Qui... Ouais, je vais y venir.
Surtout eux que ça.
Des idées importées, hein, donc qui n'ont rien à voir avec la France, qui ne touchent pas à des réalités locales. Hein. Je veux dire, c'est des problématiques des États-Unis, donc des idées importées des États-Unis, hein, comme le genre, les études décoloniales ou l'étude des races au sens social. Donc autant de travaux qui interrogent les rapports de pouvoir structurants dans la société et qui sont facilement interprétés par la droite et l'extrême droite comme une propagande gauchiste, victimaire et revendicative. Alors rapidement, ils sont interprétés comme une attaque en règle contre l'universalité donc chère à notre grande République française. Hein. Donc entendre en réalité le point de vue d'hommes, donc blancs, comme tu disais, bourgeois, tout ça, qui ne supportent pas d'être vraiment remis en question. Ainsi, donc, ici, ils se victimisent. Hein, alors ici, on retrouve en fait à la fois des enseignants et des élèves, des étudiants qui dénoncent donc l'omerta imposée par la bien-pensance antiraciste et féministe, hein, voilà, à Lyon 2. Hein. Donc les ex-étudiants, ils dénoncent des cours impartiaux, l'impossibilité de débattre ou encore les menaces, hein, lors des blocus universitaires, hein, en 2018, l'année dernière. Donc on les aurait même insultés de fascistes. Bon, ça, c'est probable, mais voilà.
C'est pas très étonnant, hein, finalement, vu leur position.
Mais c'est pas une insulte, c'est une description de la réalité, c'est tout.
Non, non, mais ils ont même sorti un truc incroyable. Là, justement, on va parler de l'amphizète tout à l'heure, mais ils ont sorti un mail qui avait été diffusé, qui dispensait d'assiduité au cours pour pouvoir aller à un rassemblement en soutien aux membres de l'amphicé lors d'un rassemblement à la préfecture. Et ils ont ressorti ça comme un argument, etc., de la pensée militante à Lyon qui prédomine. Et à côté, donc, les enseignants, eux, ils se plaignent d'un sectarisme qui compare à du maccartisme quand même, à tel point qu'ils témoignent anonymement, quoi. Je veux dire, c'est trop dangereux pour leur carrière. Ouais. Et d'après l'un d'eux, impossible de s'opposer à la racialisation dans les discours des sciences humaines ou au poids des féministes qui seraient autoritaires à Lyon 2. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les attaques, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que cet article, donc, il ne sort pas de nulle part quand même, c'est un peu artificiel, hein, comme démarche, je trouve. C'est une attaque en règle qui est menée par des réseaux laïcars et nationalistes, hein, qui cherchent à défendre ce qu'ils appellent la fameuse laïcité française. Hein. Lisez l'article, ils en parlent. Hein. Alors que ce soit le tweet de ce militant du printemps républicain ou l'interview d'un universitaire qui est membre de réseau laïcars, tous cherchent à défendre leur pouvoir et toute critique du pouvoir en France. Mais d'ailleurs, moi, ça m'interroge aussi à titre personnel, c'est que là, je parlais du rassemblement qu'il y avait eu à la préfecture, et au même moment, à l'époque, il y avait une enseignante de Lyon 2 qui s'était fait attaquer sur un site d'extrême droite, F de Souche, par rapport à un mail, justement, qui tenait à ce rassemblement. Et je revois ce truc ressortir dans l'article aujourd'hui. Je me pose des questions sur les liens qu'il peut y avoir entre F de Souche, les réseaux laïcars, tout ça, tout ça. Bon, bref. Du coup, tous ces gens, ils se présentent comme les défenseurs d'un enseignement qui serait neutre, hein, face à des travaux impartiaux, radicaux, militants. Et ici se trouve leur privilège, en fait, d'une certaine manière. C'est pouvoir se revendiquer ce qui est, en fait, leur propre point de vue sur la société, est-ce qu'elle devrait être, comme neutre. Hein. Donc, celui de bourgeois, blanc, homme, voilà. Car ce point de vue, il est dominant dans la société. Donc, si un minimum de bonne foi... ces mecs avaient, ils sauraient voir que derrière la démarche de ces différentes études qui dénoncent, il y a un véritable point de vue qui s'assume comme situé, hein, socialement, c'est-à-dire qu'il explicite dans sa démarche qui produit le savoir, sur quelle base et aussi avec quel objectif. Donc il se drape pas derrière une pseudo-neutralité ou universalité.
Oui, puis ce qui s'est passé la semaine dernière, on en reparlera après, mais à l'université, montre bien qu'elle n'a pas l'air envahie par tout un tas de gauchistes et particulièrement dans sa direction. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire.
Ouais, puis on peut se dire qu'en lien avec ça, il y a la question des élections. Donc moi, je m'interroge aussi sur ce truc. Alors, il va y avoir les élections universitaires, etc. C'est quand même louche, quoi.
Et on a le nom du journaliste, parce que...
Je vais trop sortir ça, mais...
Je pense qu'on pourra voir avec qui il traîne, parce que... Effectivement, il a l'air d'avoir des sources particulièrement intéressantes.
Allez, on enchaîne avec le dernier point sur le local. Donc, les militants écolos d'Extinction Rébellion.
Alors, on va juste revenir très rapidement sur ce qui s'est passé, mais c'est surtout, en fait, c'est revenir sur ce qui est derrière et comment ça s'est fini, qui est beaucoup plus intéressant. C'est que, en fait, donc ce dimanche, en début d'après-midi, des membres de plein de collectifs, et notamment menés par le collectif écologiste et Extinction Rébellion, sont allés bloquer, en fait, le pont Wilson, comme ils l'avaient fait à Paris et comme ils avaient pu le faire à Londres il y a quelques mois, au mois de décembre, si je me souviens bien. Ce qu'il faut voir, c'est, enfin, il y a eu beaucoup de choses, bon, en dehors du fait qu'il y a une la répression policière était très... Je vais revenir sur deux points. Un, sur Extinction Rébellion, en fait, il y a quand même un collectif très très étonnant qui est apparu. Vous trouverez un article très bien fait sur le site des camarades marseillais, Mars Info, qui revient sur les idéologies et leur mode d'action, notamment ce fantasme, en fait, de la non-violence et un travail régulier avec les forces de l'ordre où, en fait, la direction de leur collectif n'hésite pas à envoyer, en fait, à l'abattoir, en fait, tous leurs membres en les poussant, en fait, à travers différentes actions à ce qu'ils se fassent arrêter pour pouvoir jouer en fait une sorte de martyrologie en créant des positions de victimaires, et que en fait notamment à Londres, en fait, la direction a clairement dit que toutes les sommes qu'elle avait pu récupérer n'avaient à aucun moment pour but de défendre ses propres militants à arrêter, mais qu'elle préférait la mettre dans la com, et que donc on se retrouve en fait avec un mouvement écolo qui prend beaucoup d'ampleur sur la scène publique, mais qui on voit en fait un manque absolu de critique, notamment du système capitaliste, et qu'on se rapproche de très très près d'un mouvement d'écologistes de droite au final, où on, à aucun moment dans leurs revendications on parle de transformation de l'économie, d'une économie verte, mais à aucun moment on parle de la transformation des modes de production et des rapports de pouvoir. Ce qui est aussi intéressant à voir, c'est contrairement à tout ce qui peut se passer, la sur-répression qui a pu y avoir, ne serait-ce que la veille en fait avec la manifestation des Gilets jaunes, et ben en fait les forces de l'ordre se sont montré particulièrement laxiste en fait sur l'évacuation de cette occupation. Ils les ont autorisés à rester quasiment plus de 6 heures sur ce pont en arrêtant en fait absolument personne, et donc on peut voir là justement une disproportion totale en fait entre la réaction des forces de l'ordre contre ce genre de manifestation et celle qu'on a pu voir donc la veille des Gilets jaunes, c'est celle d'avant, l'occupation pour des personnes à la rue d'une clinique à Vaux-en-Velin. Et donc, une fois de plus, on peut se poser la question sur les logiques, en fait, et le système de fonctionnement de ces mouvements liés écologistes et radicaux.
Oui, après, on ne doute pas qu'il y a un certain nombre de gens qui, de manière assez sincère, se retrouvent dans ce genre de groupe. Hein. Ça a l'air d'être effectivement des groupes très hétéroclites.
Alors, on va enchaîner avec le dossier du jour et l'interview du jour, donc qui correspond à... L'Amphizède.
Alors, juste avant de commencer, on voulait revenir sur, vous lire une lettre de Pierre Klemp qu'on estime qu'elle était un petit peu, qu'elle était passée sous silence, qu'elle a écrite le 20 août pour répondre à la proposition de la maire de Paris de lui donner la médaille de Paris. Et donc, voilà, Pierre Klemp, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est cette capitaine de bateau qui a forcé l'entrée d'un port malgré les injonctions de Salvini. Et du coup, voilà, qui a refusé la médaille. On va vous lire la lettre qu'elle écrit parce qu'il nous semble qu'elle fait aussi écho à l'hypocrisie aujourd'hui de la préfecture, de la métropole, des élus de Villeurbanne, de Lyon et de l'ensemble de la métropole concernant l'accueil des exilés qui sont bien contents de soutenir des capitaines de navires comme Pierre Klemp quand c'est très loin de chez eux, mais qui, dès lors que ça arrive dans leur ville, ont des positions tout à fait différentes.
Alors, voilà ce qu'elle dit. « Paris, je t'aime. Je t'aime pour tous les gens libres et solidaires qui vivent en ton sein. Des gens qui se battent pour la liberté chaque jour, debout, bras dessus, bras dessous, distribuant des couvertures, de l'amitié et de la solidarité. Je t'aime pour ceux qui partagent leur logement, leur amour et leur lutte chaque jour, sans se soucier de la nationalité des personnes ni de savoir si elles ont des papiers ou pas. Madame Hidalgo, Vous voulez me décorer pour mon action solidaire en mer Méditerranée parce que nos équipages travaillent quotidiennement à sauver des migrants dans des conditions difficiles.
Simultanément, votre police vole les couvertures de gens contraints de vivre dans la rue, pendant que vous réprimez des manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Vous voulez me donner une médaille pour des actions que vous combattez à l'intérieur de vos propres remparts. Je suis sûre que vous ne serez pas surprise de me voir refuser votre médaille Grand Vermeil. Paris, je ne suis pas une humanitaire, je ne suis pas là pour aider, je suis solidaire à tes côtés.
Nous n'avons pas besoin de médaille, nous n'avons pas besoin de pouvoir décidant qui est un héros et qui est illégal. En fait, il n'y a pas lieu de faire cela, car nous sommes tous égaux. Ce dont nous avons besoin, c'est de liberté et de droit. Il est temps de dénoncer les honneurs hypocrites et de combler le vide par la justice sociale. Il est temps que toutes les médailles soient lancées comme des fers de lance de la Révolution. Papier et logement pour toutes et tous, liberté de circulation et d'installation. Et donc c'était Pia Klimp le 20 août 2019.
Voilà, du coup, on trouvait ça une lettre intéressante et à mettre en perspective avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc voilà, rapidement, on va en parler plus en détail, mais l'Amphizette, c'est un bâtiment qui a été réquisitionné il y a presque 2 ans pour accueillir des exilés, pour la plupart en situation de demande d'asile, et qui donc a été expulsé ce jeudi sans qu'aucune proposition n'ait été faite. Donc on accueille avec nous 2 habitants de l'Amphizette.
Bonsoir. Réveillez-vous.
Bonsoir, on ne dort pas.
Merci à vous d'être ici malgré la situation un petit peu compliquée en ce moment pour l'ensemble du collectif de l'Amphizette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est l'Amphizette et son histoire en quelques mots?
D'accord, mais bon, moi je suis venu terre vivant, n'est-ce pas, ici, sur le problème de l'Amphizette. Donc, il y a juste, n'est-ce pas, mon confrère qui est à côté, qui peut bien, n'est-ce pas, ici, décrire un peu sur l'historique, n'est-ce pas, ici, de l'Amphizette. Donc, il est à côté, il va essayer un peu de parler dessus, quoi, en fait.
L'histoire de l'Amphizette est venue depuis le 10 novembre à la partie. On a été expulsés. De la partie et nous sommes retrouvés dans la rue pendant que des étudiants étaient de passage et du coup on a pu discuter avec eux et ils nous ont conduits directement à l'université Lumière 2, Lyon, et du coup on a fait 1 mois 10 jours de là-bas et on a été expulsés par l'équipe présidentielle de
Nathalie.
Et du coup, grâce au soutien des étudiants et d'autres personnes, c'est là est venu le nom de Amphizette. Et on a occupé l'Amphizette le 18 décembre. Officiellement, nous, on a occupé l'Amphizette le 18 décembre 2018. 2017, pardon.
2017, ouais.
Et avant l'occupation, l'Amphizette était déjà occupée par des soutiens.
Et voilà, c'est un bâtiment qui appartient à la métropole, qui a été réquisitionné pour accueillir les personnes qui allaient se faire expulser de l'Amphizette à l'université.
C'était un gros bâtiment, puisque c'était un ancien centre de formation pour les pompiers, donc qui était vide depuis un certain nombre d'années. Et donc, il a permis d'héberger un certain nombre de personnes, au maximum combien de personnes?
Au début, c'était 64 personnes qui occupaient le site. Et au fur et à mesure, les gens venaient et on ne pouvait pas leur refouler, les refuser. Et du coup, vers la fin, on s'est retrouvé à 350 personnes environ. Et parmi ces 350 personnes, il y a des familles aussi et des enfants scolarisés, des collégiens et des tout-petits.
Donc... Presque 2 ans après le début de l'occupation, l'Amphizette s'est retrouvée expulsable, puisqu'il y a eu un procès. Quelle était la situation, la majeure partie des personnes qui faisaient partie de l'Amphizette, quelles étaient leurs situations juridiques?
Au début de l'occupation, on peut dire 70% étaient dans la procédure Dublin et... Il y avait d'autres personnes qui étaient déboutées et 20% étaient dans la procédure normale.
Donc sur la procédure Dublin, on le rappelle si c'est encore nécessaire, mais c'est une procédure qui contraint les demandeurs d'asile à faire leur demande d'asile dans le premier pays sûr dans lequel ils sont arrivés, donc souvent l'Italie ou l'Espagne. Et du coup, ils sont expulsés vers le premier pays sûr où ils sont arrivés pour faire leur demande d'asile. Donc ils n'ont pas le droit de faire leur demande d'asile en France, en tout cas pendant, sauf s'il reste plus d'un an et demi en France.
Voilà, donc en gros, majoritairement, l'Enfusiade était constituée de personnes qui, normalement, devraient être hébergées, logées par l'État, hein, constitutionnellement parlant. Encore récemment, c'était le cas.
Oui, dans les conditions normales, c'est l'État qui doit héberger ses demandeurs d'asile. Mais malheureusement, l'État s'est lavé les mains et ils ont laissé à certaines personnes... qui, dans les conditions normales, ne doivent pas s'occuper, mais malgré la solidarité, ils continuent à le faire. Et du coup, c'est pour cela que nous les disons merci, et franchement, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous. Et
que l'État devrait faire.
Oui, ça c'est tout à fait normal, que, n'est-ce pas, et ce que dit mon confrère, parce que ici aujourd'hui, les demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ils sont dans la merde, je peux dire comme ça. L'État est tout simplement, n'est-ce pas, ici, a failli non seulement à ses droits et à ses devoirs. Donc si nous squattons aujourd'hui, n'est-ce pas, ou soit si les soutiens et les militants, n'est-ce pas, ici squattent des bâtiments, c'est pas parce qu'ils ont l'envie de le faire, mais c'est parce que l'État a failli non seulement, n'est-ce pas, à son devoir. Donc aujourd'hui, nous, en tant que demandeurs d'asile, nous sommes dans la précarité parce que est vraiment bientôt l'hiver. Et l'amphithéâtre, n'est-ce pas, ici, a été expulsé parce que il n'y a pas d'autre moyen, au fait. Et pourtant, nous, on comptait surtout, n'est-ce pas, ici, sur la métropole et la préfecture, non seulement ici, qui ont le plein droit, non seulement d'héberger, n'est-ce pas, ces demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ces demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ici, sont quasiment refoulés par la métropole et par la préfecture.
Et traités presque comme des criminels.
Oui, effectivement, comme vous le dites, donc je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, sur ce point, et nous, et le combat qui est là, et on ne va jamais lâcher. Donc, c'est pour dénoncer toujours, n'est-ce pas, ici, que l'État, enfin, qu'il revienne, n'est-ce pas, ici, dans sa pochette, pour dire que vraiment, ces demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ici, sont des hommes comme nous, parce que si toutefois ils quittent leur pays, ce n'est pas parce qu'ils ont le choix de quitter, mais plutôt c'est parce que c'est dû au problème, n'est-ce pas, ici, que la France, n'est-ce pas, ici, a commis, n'est-ce pas, à l'Afrique, que nous aussi, on n'a pas eu la paix du cœur, c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous quittons. Nous ne sommes pas des migrants, n'est-ce pas, ici, économiques plutôt, mais plutôt, il y a des migrants, n'est-ce pas, qui sont là, qui ont fui la guerre, qui ont fui la famine, qui ont fui, n'est-ce pas, ici, et dû, n'est-ce pas, à beaucoup d'effets, au fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes en France. Donc, la France doit mettre en réalité, n'est-ce pas, ici, la politique pour ne pas cacher, n'est-ce pas, sur un peu l'entretien dont les migrants passent dedans, quoi.
Alors, il faut préciser également quelque chose qui est important à préciser, c'est que l'intégralité des personnes qui habitaient à l'Enfusiade faisaient très régulièrement des démarches auprès de l'État pour obtenir des relogements sans jamais... en obtenir. Il y en a eu plein, on ne va pas forcément les détailler, mais c'est suffisamment important à souligner, puisque, en toute logique, en tout cas, depuis un certain nombre d'années, dans la plupart des villes, quand il y a une expulsion d'un bâtiment, eh bien, les demandeurs d'asile, les familles avec enfants, les personnes en situation de vulnérabilité sont hébergées au moins quelques jours, si ce n'est en tout cas réintroduit dans une procédure d'hébergement classique pour les demandeurs d'asile. Et alors là, en l'occurrence, on va arriver au moment de l'expulsion de l'Enfusiade. Comment s'est déroulée cette expulsion ?
Alors, sachant que pour cette question-là, la préfecture s'était engagée lors d'un rendez-vous avec une délégation qui les a rencontrés à la suite de la manifestation le 7 septembre, on précise que la préfecture s'était effectivement engagée à ne pas faire une expulsion sèche, c'est-à-dire à proposer ces solutions-là au moment de l'expulsion. On va voir s'ils ont proposé quelque chose.
Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'expulsion ?
Au moment de l'expulsion, moi je pense que l'État est resté indifférent. Donc, face non seulement à la situation auquel nous traversons, et donc, parce que pour la première fois, nous on a tenu tête à tête avec la préfecture, n'est-ce pas, ici, et d'où il y a eu, n'est-ce pas, cette fameuse diagnostic social maintenant qui était mise en cours. et par l'Alpil, qui est venu non seulement ici sur le terrain pour voir, n'est-ce pas, la réalité de ce qui se passe, n'est-ce pas, au sein de l'Amphized. Et du coup, ils ont vu que vraiment, l'Amphized n'était pas un bâtiment à l'abandon, en fait, parce qu'il y avait toute une structure qui était mise en base, qui était mise en place. Donc, ils ont fait le diagnostic. Et en plus de ça aussi, il y a eu une trentaine, n'est-ce pas, ici, qui ont eu l'accès, non seulement à l'hébergement. Donc, mais le nombre qui était peu, et nous, on s'est dit que toujours, il fallait encore continuer le combat afin qu'ils prennent, n'est-ce pas, ici, tous ceux qui sont dans la procédure en tant que demandeurs d'asile, au fait.
Et finalement, le jour de l'expulsion, donc le jeudi 11 septembre, qu'est-ce qui a été proposé aux habitants ?
Et du coup, le 11 septembre, n'est-ce pas, ici, les habitants, et nous, on pensait que non seulement, parce qu'il y avait eu tant de promesses, et du côté de la préfecture, n'est-ce pas, et pour dire que et nous sommes là, n'est-ce pas, ici, avec tous vos problèmes, on va essayer de trouver une solution, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, ici, que l'hébergement. Mais par fini, cette promesse, n'est-ce pas, ici, a été balayée. Donc, cette promesse n'a pas été réalisée comme il fallait.
Non, ils ont relogé, pour les chiffres, ils ont relogé deux familles qui étaient effectivement en procédure d'asile normale.
Normal, oui.
Et du coup, en situation de vulnérabilité. On peut préciser quand même un élément important et qui montre bien leur cynisme, c'est que suite à l'insistance d'un certain nombre de personnes présentes, ils ont fini par donner une liste, l'OFI, donc, qui s'occupe du logement des demandeurs d'asile, a fini par donner une liste de 8 noms de personnes qui étaient censées avoir donc des places en CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, qui finalement, quand les 8 personnes en question se sont présentées à la préfecture pour obtenir leur relogement, on leur a expliqué qu'en fait, on n'aurait jamais dû leur donner cette liste de noms et qu'en fait, ils n'avaient pas de place en CADA. Voilà. C'est quand même important de le dire parce que je rappelle quand même quelques petites citations du préfet du Rhône, donc Pascal Mélios, qui lors de sa prise de fonction déclarait vouloir travailler, je cite, à la sécurité d'un côté et à la fraternité, la solidarité de l'autre, et qui continuait en disant il faut bien accueillir ceux que la République doit accueillir, les réfugiés et les personnes en situation régulière. Alors là, en l'occurrence, il s'est illustré par son absence totale de solution et surtout d'humanité, quoi.
Et alors, donc, le soir de l'expulsion de l'Amphized, effectivement, beaucoup de personnes se retrouvent à la rue sans aucune solution de relogement proposée par les différentes institutions. On va y revenir, mais on voulait aussi rappeler que la semaine précédente, une ouverture de squat a eu lieu à Vaux-en-Velin, à la clinique de l'Union, donc une clinique qui était vide depuis plusieurs mois, qui a été ouverte dans les règles de l'art. Hein, en tout, et donc, il y aurait dû avoir une procédure judiciaire entamée sur ce nouveau squat, et la préfecture a préféré envoyer sa police, hein, avec beaucoup de policiers, même en plus grand nombre que les personnes qui occupaient le lieu, et qui sont très violemment intervenus sur le toit de la clinique où s'était posté un certain nombre de personnes pour essayer de ralentir l'expulsion, et sont violemment intervenus, ont tabassé en règle un certain nombre de personnes, en ont interpellé certains. Le jour même et le lendemain, quand il y a eu un rassemblement de soutien devant le commissariat de Vaux-en-Velin, 5 d'entre eux vont passer en procès entre décembre et février pour des faits relativement lourds et relativement graves. Beaucoup d'entre eux ont été blessés. Donc, non seulement il y a eu l'expulsion de Vaux-en-Velin la semaine qui a précédé l'expulsion de l'Amphized, mais au soir de l'expulsion de l'Amphized, aucune proposition. Alors que beaucoup de démarches ont été tentées, donc là on va en parler. Quelles sont ces démarches qui ont été les premières démarches qui ont été tentées au moment de l'expulsion de l'Amphized d'abord?
Bon, et la démarche, n'est-ce pas, ici qu'on a entamée, c'est que les soutiens, n'est-ce pas, ici ont eu non seulement le courage de se déplacer, n'est-ce pas, ici, d'aller rencontrer, n'est-ce pas, ici, les autorités en place, afin qu'il y ait au moins une solution fiable, n'est-ce pas, et au problème, n'est-ce pas, ici, des demandeurs d'asile. Et du coup, comme je le disais tantôt, qu'il n'y a pas eu de solution, n'est-ce pas, à nos problèmes jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, là où nous sommes, parce qu'il y a au moins beaucoup de personnes, des demandeurs d'asile, n'est-ce pas, ici, qui sont dans la rue aujourd'hui, qui se retrouvent dans la rue et qui ne savent plus maintenant quoi faire. Donc, nous-mêmes, on se pose la question pour dire que réellement, où se trouve l'État? Et si toutefois aujourd'hui, non seulement les soutiens et les militants, n'est-ce pas, ici, jouent le rôle, n'est-ce pas, ici, de l'État pour dire que, et non seulement, et, c'est-à-dire que, moi je reviens un peu en arrière pour dénoncer un peu, si la France, n'est-ce pas, ici, dit que c'est l'égalité, la fraternité et la liberté, moi je, c'est, peut-être que c'est dans la politique au fait. Vous avez vu, donc moi je vois ça dans la politique, mais sur le terrain, n'est-ce pas, ici, on ne comprend rien du tout. Donc, et sur le cas de Vauvelin, n'est-ce pas, ici, et moi j'ai participé au fait à Vauvelin, donc vraiment il y a eu toute une ramada, n'est-ce pas, ici, de policiers et, qui sont venus et, tabasser, et moi-même j'ai été gagé, donc ils m'ont tabassé parce que je réclamais non seulement ici mon droit, mais bon, ces policiers, bon, c'est des...
Ok. Bah, quand même, je tiens quand même à reposer peut-être la question de notre camarade. Le soir de l'expulsion, est-ce qu'il y avait eu des alternatives concernant les gens qui ont été expulsés, l'Amphizède, et qu'est-ce qui s'est passé aussi le lendemain de l'expulsion ?
Voilà. Oui, peut-être revenir sur le rassemblement qui a eu lieu à Villeurbanne, à la mairie, parce que... il y a eu une tentative de médiation avec la mairie de Villeurbanne, puisque Jean-Paul Brett... a fait beaucoup de déclarations dans la presse concernant l'accueil des migrants. Notamment, il a dit, en parlant de l'Amphizède, je cite, « On ne peut de toute façon pas expulser les habitants sans avoir trouvé de solution viable derrière. » Du coup, il y a une délégation qui est allée rencontrer les élus de Villeurbanne pour demander éventuellement la mise à disposition d'un gymnase, au moins pour avoir le temps de se retourner quelques jours. Et du coup, il a opposé une fin de non-recevoir. Du coup, je ne sais pas, peut-être qu'on peut parler de ce qui s'est passé ensuite, vous êtes allé, vous êtes tourné vers qui ?
Le soir même de l'expulsion.
Le soir même de l'expulsion, et donc, comme il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de solution au fait. Donc, c'est non seulement les soutiens, n'est-ce pas, ici, qui se sont battus pour au moins avoir des locaux où, et non seulement... ces demandeurs d'asile peuvent rester juste pour un temps, afin qu'ils puissent au moins être recadrés, n'est-ce pas, dans un coin, au fait. Parce qu'on a fait tout, on a fait le tour, n'est-ce pas, ici de Villeurbanne, afin que nous puissions au moins avoir un toit, n'est-ce pas, où rester. Donc, du coup, on s'est déplacé, nous sommes allés, n'est-ce pas, ici, dans le foyer de la gare de Villeurbanne. Et par fini, c'est là où peut-être qu'ils ont pu accepter au moins une dizaine ou quinzaine de personnes.
Dans la paroisse de QC. Et le lendemain, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais le lendemain, du coup, il y a eu une tentative d'occupation de l'université. Du coup, on a pu revoir Nathalie Dompnier et sa horde de gauchistes qui font si peur aux journalistes du Progrès. Du coup, qu'est-ce qu'elle a répondu quand on... à cette occupation ?
À cette occupation à la fac de l'Amphicé ?
Ouais.
Voilà, moi j'étais, et donc la présidente, non seulement, et quand elle est venue, il y a eu, n'est-ce pas, et le dialogue entre les soutiens, n'est-ce pas, ici, et les demandeurs d'asile qui étaient présents, n'est-ce pas, ici sur le terrain, avec la directrice, n'est-ce pas, en question. Donc elle dit quasiment que, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas responsable, donc de bien vouloir accepter, n'est-ce pas, ici, ces demandeurs d'asile, n'est-ce pas, et à l'Amphicé. Parce que, c'est-à-dire qu'elle est même revenue un peu en arrière, elle a parlé sur le cas de 2017, n'est-ce pas, et de tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en 2017, que donc tel n'est plus le cas et qu'il y a encore des répétitions, n'est-ce pas, ici en France, c'est-à-dire à l'Amphicé. Donc, du coup, nous, maintenant, on n'a pas pu au moins continuer, n'est-ce pas, ici le dialogue, parce qu'on a été alertés que, n'est-ce pas, il y avait une vingtaine de policiers, n'est-ce pas,
de camions, voilà, policiers.
Non, une vingtaine de camions.
34 environ.
Oui, ouais. 34 même environ, s'il faut dire. Hein. Ouais. Voilà, donc, qu'ils étaient là déjà et à la porte, n'est-ce pas, ici, d'entrée de la fac. Donc, ils ont pris, n'est-ce pas, ici, tous les dispositifs, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent au moins encore ressortir, non seulement les demandeurs d'asile qu'ils étaient, n'est-ce pas, à l'Amphicé. Donc, nous, on a eu l'occasion de sortir paisiblement, mais la présidente, elle n'a pas du tout voulu nous accepter.
Non, alors qu'il y avait des propositions qui étaient faites, qui paraissaient tout à fait raisonnables, et voilà.